Poésie à l'écoute.
Je vous propose d'entendre un extrait d'un entretien réalisé avec Jean-Pierre Luminet à l'hôtel Métropole le mardi 20 mars, avant sa conférence au Midi de la Poésie située au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Jean-Pierre Luminet est un astrophysicien de renommée mondiale. Il a largement contribué à la connaissance de l'univers par ses travaux sur les trous noirs, la cosmologie et l'histoire des sciences. À ses activités de scientifique, on peut ajouter celle d'un auteur tour à tour poète, essayiste et romancier. Les extraits qui ponctuent cet entretien sont lus par le comédien Luc van der Malen, et cet entretien a été réalisé avec l'aide de Renaud Lambiot, professeur de mathématiques au FUNDP à Namur. Vous entendrez également des extraits d'une composition originale du troisième mouvement du Noir de l'Étoile, réalisé par le compositeur français Gérard Grisset et Jean-Pierre Luminet lui-même. Je vous souhaite une excellente écoute.
J'ai toujours considéré que le travail de la communication scientifique était intrinsèquement lié au métier de chercheur. Nous avons un devoir, je pense, en tant que chercheur, de rendre compte de nos travaux auprès de la société. Donc je pense que nous avons un rôle à jouer extrêmement important. Un rôle qui consiste en fait à diffuser ce que j'appelle la culture scientifique, car aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de clivages entre les savoirs littéraires, scientifiques, dès l'école, et puis plus tard effectivement un cloisonnement des disciplines. Or il y a un grand nombre d'enjeux de société qui reposent sur la science. La science et les applications scientifiques, technologiques jouent un rôle absolument fondamental aujourd'hui dans notre société. Et donc je répète, il y a la responsabilité du scientifique de bien faire connaître au public, non seulement au grand public, mais encore plus éventuellement aux élus et au gouvernement, si tant est qu'ils nous écoutent parfois, de faire comprendre clairement les enjeux sur une quantité de problèmes de société, mais qui effectivement relèvent de l'investigation scientifique. L'exercice de la vulgarisation scientifique n'est pas un exercice facile parce qu'on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir entre une simplification qui serait trop abusive au regard de la réalité scientifique, mais qui permettrait effectivement à un plus grand nombre de comprendre certains éléments, ou alors de l'autre côté un niveau de technicité trop grand. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de chercheurs, excellents chercheurs, préfèrent ne pas se prêter à l'exercice de la vulgarisation parce qu'ils ne se sentent pas finalement à l'aise dans cet exercice difficile et délicat et trouver un équilibre. Moi pour ma part, d'abord la vulgarisation que je fais, la communication, passe par différents moyens, à la fois l'écriture. Et déjà, au niveau de l'écriture, que ce soit un article de vulgarisation dans une revue ou un livre, c'est déjà pas tout à fait la même chose, parce qu'évidemment, dans un livre, vous pouvez développer davantage, raccourcir, rallonger, mettre des encadrés un peu plus techniques éventuellement. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même forme. Et puis, selon mes différents ouvrages, ils sont à des niveaux relativement différents. Aucun de mes ouvrages destinés au public, tous mes ouvrages sont destinés au grand public, aucun ou pratiquement aucun ne contiennent des équations, mais certains contiennent quand même des schémas et des concepts réellement difficiles à comprendre. Et je sais très bien que parmi mes lecteurs, tous ne comprendront pas tous les chapitres de certains de mes ouvrages, mais je pense que c'est aussi normal de se livrer à cet exercice. Et puis alors après, il y a la transmission de la culture scientifique à travers la conférence grand public. Alors là, effectivement, c'est un niveau de divulgation en général encore plus élargi. Et voilà, donc on essaie de s'adapter à toutes les formes de niveau culturel du public. Mais je dirais un petit peu en souriant que quand il s'agit en fait de sujets aussi passionnants que les sciences de l'univers, toutes les questions que l'on peut poser, parce que finalement le niveau se voit en fin de conférence au niveau des questions qui sont posées. Il y a parfois des questions posées qui sont assez subtiles, assez fines, et qui montrent que l'interlocuteur, l'auditeur a déjà lu auparavant, n'a pas fait que écouter la conférence, il s'est déjà cultivé, il a lu des articles et des livres de vulgarisation scientifique. Donc on répond à ce niveau-là, puis ceux qui n'ont pas même pas compris la question dans l'auditoire ne comprendront pas la réponse, c'est pas grave. Et puis parfois on pose effectivement des questions qu'un enfant de 5 ou 6 ans pourrait poser, mais qui sont souvent tout aussi importantes et tout aussi profondes, hein, voilà. Donc je crois qu'il faut s'adapter un petit peu à tous les niveaux, au coup par coup.
Quelle est la forme de l'espace? C'est l'une des questions qui m'intrigue le plus depuis 30 ans. Plus précisément depuis un après-midi d'été qui reste gravé dans ma mémoire. Adolescent, je lisais dans mon jardin inondé de soleil une encyclopédie d'astronomie destinée au grand public. À la fin de l'ouvrage, des pages plus techniques introduisaient des notions de relativité générale et d'espace courbe. Je ne comprenais rien, mais j'étais fasciné. Un certain Albert Einstein avait démontré que l'espace et le temps n'étaient pas aussi simples que ce que nous souffle l'intuition géométrique. Une phrase avait surtout piqué ma curiosité. Il était dit que dans un champ de gravitation, le continuum d'espace-temps n'était plus euclidien, mais constituait un mollusque de référence. Une image très forte s'était aussitôt formée dans mon esprit. À la saveur des mots s'ajoutait leur valeur métaphorique. Le mollusque d'espace-temps fit naître dans mon imaginaire la vision pittoresque d'un immense escargot cosmique, à la pose triée de lumière, variée en courbure et en galbe. Dès lors, je n'ai eu de cesse d'expliciter cette étrange affirmation. Quel est ce mollusque universel? Et je n'ai jamais plus contemplé du même œil les beaux cieux étoilés de ma Provence natale.
Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une réelle désaffection des jeunes pour les disciplines ardues, que sont les disciplines des sciences, en tout cas au moins les sciences dites dures. Il y a beaucoup de secteurs, donc de la physique, qui sont délaissés. Je dois dire tout de même, mettre un petit bémol sur ce constat un peu pessimiste, que pour l'instant, les sciences de l'univers échappent quand même à cette désaffection, car elles continuent quand même à exercer un attrait. À la fois par la grandeur des questions qu'elle pose, les grandes questions, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, etc. Y a-t-il des vies extraterrestres, le Big Bang, les trous noirs, tout un ensemble de choses qui continuent à fasciner le public à tous âges. Et donc, je vois bien dans notre domaine qu'il y a beaucoup de jeunes extrêmement brillants qui veulent faire ce métier, qui s'engagent dans les doctorats, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas nécessairement dans les autres domaines de la physique. Alors, ceci dit, il est vrai que les formes justement de mise en culture de la science à travers des formes d'expression plus littéraires peuvent jouer effectivement un rôle important pour réattirer des jeunes vers ces disciplines-là. Faire comprendre, par exemple, que faire de la physique ne passe pas nécessairement uniquement par les choses un petit peu qui peuvent paraître rebutantes, manipuler des équations, faire des expériences de laboratoire, etc., mais qui a d'autres formes plus subtiles, c'est quelque chose d'important. Alors raconter ça à travers des formes littéraires, telles que le roman, que j'ai beaucoup pratiqué également, ou la poésie c'est plus délicat, et moi, pour moi la poésie, je me suis passionné pour la poésie d'inspiration astronomique, en ce sens que j'ai publié une anthologie il y a quelques années sur les poètes et l'univers, montrant comment au cours de l'histoire, les plus grands poètes avaient su capter un petit peu les idées scientifiques de leur époque, soit pour les accepter, soit pour les rejeter, mais en tout cas pour en parler en termes poétiques. Mais moi-même, je n'étais pas dans cette mouvance. Pour moi, la poésie, c'était un langage radicalement différent du langage des mathématiques et de la physique. C'est, évidemment, ça se passe sur un registre beaucoup plus émotionnel. Et la poésie, c'est plutôt pour explorer le cosmos intérieur. Hein. Donc, j'aime bien l'expression de Bachelard qui parlait du double infini du cosmos et de l'âme humaine. Donc pour moi, la poésie servait plutôt à ça, plutôt que parler des étoiles. Si je dois parler des étoiles, des trous noirs du Big Bang, j'utilise le langage normal de la science que j'ai l'habitude de pratiquer. Et si je veux parler de l'âme humaine, de ces ombres et de ces lumières, j'utilise le langage de la poésie. C'est surtout, en ce qui me concerne, c'est surtout dans le domaine du roman que j'ai tenté justement d'attirer un public encore plus large que celui qui lit des essais de culture scientifique, puisque j'y raconte l'histoire, l'évolution des idées sur l'univers depuis l'Antiquité jusqu'à peu près au siècle des Lumières. J'ai écrit une série donc de 6 romans qui racontent étape par étape les vies et les œuvres des grands noms de l'astronomie, les Ptolémées, Copernic, Kepler, Galilée, Newton, etc., mais insérés justement dans tout le contexte de leur époque, dans la société, dans les grands débats philosophiques, idéologiques, religieux, etc. etc. Et j'ai effectivement constaté, comme ces livres ont relativement bien marché, que c'est effectivement un moyen assez efficace pour attirer les jeunes vers ces disciplines.
Fourmilière désordonnée du monde, les familles stellaires vont se raréfiant à de grandes distances. Soleil pivotal de la galaxie, lumineux, mais non entièrement igné, qu'il meure comme une fleur, comme un insecte, et que sa fin réjouisse. Les soleils roulent sans obstacle sur leur cercle démesuré. Localiser la perfection morale. La tourmaline attire les poussières de cendres. Univers précaire où poudroient les brouillards mystérieux de lointaines galaxies où partout des astres agonisent. Rôdent les invisibles soleils noircis. De leur choc jaillit une jeune nébuleuse. C'est un vent d'orage qui pousse les soleils. Ciel nocturne, peuple d'étincelles, ta nuit est une mer sans rivage, dont les jours sont les îles. Il y a des portions de firmament vides d'étoiles et d'un noir absolu. Certains y voient de simples déchirures entre les amas stellaires. D'autres navigateurs prétendent que ces masses d'ombre frappent d'aveuglement ceux qui les regardent.
Alors, en fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai pratiqué les arts, bien avant de pratiquer les sciences. Donc, c'est quelque chose qui a profondément enraciné en moi, puisque donc, quand j'étais adolescent, même si je suivais un cursus de mathématiques, mes véritables passion et occupation, c'était le dessin, la musique, la littérature, l'écriture, poésie, etc. etc. Voilà. Donc après, lorsque j'ai fait ce métier merveilleux de chercheur, qui fait également travailler à plein régime l'imagination pour élaborer des modèles, j'ai refusé absolument de rentrer dans le clivage habituel entre les activités scientifiques et les activités artistiques. J'ai essayé de mener de front les deux activités. Voilà. Donc pour moi, c'est un enrichissement extraordinaire. Je me souviens de le grand poète et mathématicien persan Omar Khayyam disait qu'il n'y avait pas une seule voie pour accéder à une forme de vérité, même s'il n'y a peut-être pas de vérité absolue, mais que justement il fallait emprunter les différents chemins. Et lui-même était à la fois astronome, il avait fondé un observatoire, c'était un brillant mathématicien, et puis évidemment c'était un immense poète. Et la voie qu'il avait refusée, et ça je serais bien d'accord avec lui, c'est la voie politique, puisqu'on lui avait également proposé des postes à responsabilité politique élevés, mais pour lui c'est effectivement pas une voie très enrichissante pour l'esprit humain. Je partage tout à fait ce point de vue.
L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun des hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ?
Le mouvement est une nécessité du monde, sans quoi il ne serait qu'une machine inutile. Un tel plan ne peut jamais être accompli. Qu'il meure alors comme une fleur, comme un insecte, et que sa fin réjouisse. La pensée de l'Éternel fait mal, mais elle enivre. Descendre ou monter, n'est-ce pas la même chose ? Couronne lumineuse et cercle noir. Mais quel noir ! C'est la nuit sans bord, violée par l'étincelle soudaine, perforée par ses rayons aigus comme des épées. Quelques-uns demeurent prisonniers des viscères, englués au lac de l'esprit, qui est la vraie matière de l'ombre. L'être est une farce éphémère, un fond de rien, où l'espace et le temps explosent, œuvre tumultueuse du diable, divine mort, rêve de pierre. Les montagnes craquent, les mers fument contre le ciel, ce qui arrive sur nous est le trop de lumière. Douce tiédeur de la concoction, brûlure du désir, il est rarement question de lumière, la vie organique est éternelle. Comme des étincelles dans les roseaux, transmuées en substances lumineuses, nous sommes une lente rêverie végétale où s'étirent les rameaux du désir. C'est ainsi que se consume l'univers, et cela éternellement.